Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Ce podcast a été produit par Binge Audio.
C'est une vraie prouesse parce que jamais un restaurant vegan qui ne sert donc aucun produit d'origine animale n'avait été étoilé.
Salut, c'est Thomas Rozek. Le 18 janvier a eu lieu une petite révolution dans notre pays où la fourchette est reine. Pour la première fois, le prestigieux guide Michelin a décerné une étoile à un restaurant vegan français. Il s'agit d'Ona, de la chef Claire Vallée, un projet qui avait dû se monter en partie en crowdfunding vu que les banques classiques n'avaient pas à l'époque souhaité la soutenir. C'est symbolique, ça marque aussi peut-être un changement de perception vis-à-vis de la nourriture végétale et du véganisme encore trop souvent assimilé à un mode de vie radical et marginal à base d'agressions de boucherie entre autres. Plus généralement, on peut aussi y voir un rappel de la lente mais sûre prise de conscience de la nécessité de changer de modèle, que la viande, encore omniprésente dans nos assiettes, a vocation à céder un peu la place pour notre santé, pour la planète, mais pas que. Aussi parce que de nombreuses voix n'ont de cesse de pointer le sort particulièrement cruel réservé aux animaux des élevages intensifs et les solutions qui existent pour que l'on fasse évoluer collectivement nos habitudes. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité, c'est Romain Espinoza. Il est chercheur en économie au CNRS et il signe en ce mois de janvier le livre « Comment sauver les animaux, une économie de la condition animale ». Ça paraît aux presses universitaires de France. J'ai commencé par lui demander un état des lieux en chiffres de ce que l'exploitation animale représente dans notre pays.
Alors en ce qui concerne l'élevage, on est à peu près à 1 milliard d'animaux qui sont tués tous les ans pour la consommation de viande. Dans ces catégories-là, on a à peu près 90% qui sont des volailles. Donc la très très grande majorité, c'est les poulets de chair, à peu près 740 millions. Ensuite, on a donc effectivement les autres types de volailles, comme le canard, comme les poules de réforme, etc. Viennent ensuite donc les porcs. Hors volailles, les porcs sont quand même représentent une part importante. Et puis, de manière finalement très marginale, on a tout ce qui est bovins, ovins, caprins, équidés. Mais c'est vrai que quand on parle de conditions animales, on a tendance à parler des vaches dans les prés. Mais les bovins, c'est moins de 0,5% des animaux tués en France tous les ans, des animaux terrestres. Donc après, il faut rajouter les poissons, qui aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué de les chiffrer, mais qui sont très nombreux.
Alors, la grande question, qui d'ailleurs est au cœur de la première partie de votre livre, c'est pourquoi est-ce qu'il faut arrêter d'exploiter et donc de tuer et donc de, potentiellement de manger des animaux ?
Alors oui, donc le livre, l'idée était... On va s'intéresser au bien-être des animaux pour eux-mêmes. D'habitude, c'est vrai que je suis plutôt habitué à parler d'impact sur la santé ou d'impact sur l'environnement, mais là, je voulais prendre le temps pour réfléchir au bien-être des animaux pour eux-mêmes et proposer quelque chose de plus loin que juste pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter, parce que je pense qu'il y a des personnes bien plus brillantes que moi qui ont déjà analysé ça, et peut-être ma contribution, c'était plutôt sur le comment y arriver. Mais c'est vrai que pour les économistes, c'est pas clair, c'est pas évident, a priori. Et donc, je reviens sur la question sur pourquoi est-ce qu'en économie, on devrait s'intéresser aux animaux et pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à leur bien-être. Donc, en fait, ce que beaucoup d'économistes ignorent, c'est que c'est vraiment dans la tradition utilitariste dans laquelle nous, on s'inscrit en tant qu'économistes. les premiers utilitaristes parlaient déjà d'intégrer le bien-être des animaux. Alors, ce n'était pas des chapitres entiers, hein, c'était plutôt quelques mentions par-ci, par-là, mais c'était dans leur idée. Et la philosophie utilitariste, elle a évolué, bien sûr, de Bentham, et un siècle plus tard, on a Peter Singer qui parle de la libération animale, donc grand philosophe utilitariste.
Est-ce qu'on peut juste peut-être faire un point de définition sur, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, sur ce qu'est le courant utilitariste ?
Alors, je parle du courant utilitariste comme on le perçoit en économie. Donc, l'idée est de se dire qu'on a besoin d'un outil potentiellement objectif sur lequel on serait tous d'accord pour évaluer les politiques publiques. Et cet outil, c'est finalement de se dire, nous ressentons tous des plaisirs, des peines, on cherche tous à être heureux dans notre vie, et donc on devrait mesurer les politiques publiques à l'aune de si elles créent du bonheur dans la société, donc si elles augmentent ce qu'on appelle l'utilité de chacun. Donc voilà, l'idée c'est de centrer sur l'individu, l'utilité d'un individu, sur le fait que ce soit un individu sensible, qu'il ait des plaisirs et des peines, et a priori on peut tous être universels là-dedans. Mais du coup, comme dit Bentham, en fait, les animaux aussi, c'est des êtres sensibles. Et donc, si on parle là-dessus, on devrait aussi potentiellement inclure les animaux. Donc, c'est aujourd'hui la question à laquelle est confrontée l'économie, qui avant regardait juste l'utilité des êtres humains. Et donc, se pose la question de comment intégrer les animaux. Donc, il y a deux voies, soit de manière directe, on dit les animaux sont sensibles, on les compte comme tout le monde. Ou bien des voies intermédiaires qui disent au moins il y a des êtres humains qui sont sensibles à ce que vivent les animaux, donc par effet indirect, il faut prendre en compte ces animaux parce que j'ai des autres humains qui s'en soucient.
Et comment on le fait alors ?
Alors ça c'est
le gros morceau, la grosse question.
C'est la grande question d'un point de vue économique. En théorie c'est compliqué, on y travaille. Ce qui est compliqué. On arrive assez bien en économie à comparer l'utilité de deux personnes parce que si vous voulez à un moment on peut tous s'accorder sur de l'argent. C'est-à-dire, vous avez un accident, je dois vous indemniser, je peux vous donner une somme d'argent. La question, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer l'utilité d'un animal et la rendre à peu près comparable avec l'utilité d'un être humain ? C'est compliqué parce que pour une poule en élevage intensif, si je lui demande combien elle est prête à payer pour être dans un élevage en plein air, ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une limite à laquelle on est confronté en économie, mais il y a beaucoup de chercheurs qui y travaillent. J'ai assez confiance dans le fait qu'on va trouver une solution à terme, peut-être sous 5 à 10 ans. Il y a des travaux déjà aux États-Unis. Dans des départements d'éthique animale et agriculture, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de voir, en fait, pour les êtres humains, comment ils valorisent la vie d'un animal par rapport à la vie d'un être humain, et ou par exemple quand un animal subit des violences physiques ou quand il est amoindri ou quand il vit dans certains élevages. Et donc essayer comme ça de reconstruire une valeur économique des dégâts sur les animaux. Donc c'est un domaine où il y a beaucoup de discussions, mais j'ai assez confiance sur le fait qu'on va trouver une solution.
Ce qui est toujours étonnant quand on s'intéresse à la question des animaux, c'est de percevoir, et vous le notez dans ce livre, le gap qu'il peut y avoir entre notre connaissance, qui est de plus en plus vaste, de ce qu'est la souffrance animale, mais à côté de ça, notre compréhension ou notre incapacité à changer de modèle vient déséquilibrer le rapport. Il y a cette espèce, oui, de marche qu'on n'arrive pas à franchir.
Alors tout à fait, c'est vrai que c'est ce que j'appelle dans le livre le paradoxe de l'exploitation animale, c'est-à-dire qu'on est très sensible aux animaux, à ce qu'ils vivent collectivement, et pourtant collectivement on a 95% des porcs en élevage intensif, 80% des poulets en élevage intensif, voilà. Ou bien on aime les animaux sauvages, mais on va dans les cirques où ils sont dressés, etc., ils vivent dans des conditions difficiles. La question centrale de ce livre, c'est comment on peut expliquer cette différence. D'un point de vue historique, c'est vrai que les mouvements animalistes sont beaucoup concentrés sur la question de la dissonance cognitive. Donc, pour résumer très simplement, c'est vous voulez continuer à manger de la viande, donc ce que vous faites, c'est que vous allez rejeter l'information ou minimiser l'information que vous recevez, qui vous dirait qu'il faut pas trop, il faudrait au moins diminuer fortement. Donc ça, c'est une théorie qui est très influente. En psychologie, elle a été beaucoup utilisée ces 10 dernières années. Vraiment, il y a eu un boom de la littérature là-dessus. En économie aussi, on commence à y arriver. Mais je me suis dit, ici, j'ai voulu explorer d'autres pistes. Avec certaines pistes plus simples, mais peut-être que les gens sont en fait ignorants de ce qui se passe, tout simplement, et peut-être revenir un peu à des explications simples. Et à des explications un peu plus compliquées, comme les phénomènes sociaux, c'est-à-dire que consommer la nourriture, c'est aussi une identité sociale. On le mange en famille, on mange avec des amis, c'est des habitudes, etc. ou bien je discute aussi des biais un peu plus psychologiques qui seraient, par exemple, un exemple important, c'est celui de la licence morale qui me paraît important, c'est cette idée que d'un côté, on a son animal de compagnie, on en prend soin, ce qui nous donne une vision de nous-mêmes d'un défenseur des animaux. Du coup, de l'autre côté, on s'autorise de manger de la viande avec la conscience tranquille.
Parmi les pistes de solutions, qui est le dernier volet du livre, il y a en gros trois axes qui sont développés. Un axe qui est plus individuel, associatif en l'occurrence. Un axe qui est du ressort de l'État et un autre de celui des entreprises. J'aimerais bien qu'on balaye un peu toutes ces possibilités, notamment le premier, l'axe associatif, qui est un des plus visibles parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé des associations, enfin notamment d'une, de L214 pour la citer, de défense des animaux.
Alors oui, c'est vrai que dans le livre, je parle pas trop des solutions individuelles stricto sensu, à oui. savoir vous, votre décision individuelle de diminuer votre consommation de viande, parce que j'avais envie de discuter tout ce qui était collectif, action collective. Donc comme vous le dites, il y a des actions collectives d'initiative privée, comme les associations, qui, à mon sens, ont eu un rôle majeur parce qu'en fait, les vidéos tournées justement derrière les murs des abattoirs ou des élevages ont permis de soulever beaucoup de freins que j'identifie. Même pour les personnes qui sont ignorantes, tout simplement, ça a apporté beaucoup d'informations. C'est-à-dire que vous et moi, on n'a pas tous les jours les pieds dans une ferme, ou du moins les fermes dans lesquelles on a pu mettre les pieds, c'était plutôt des fermes où ça se passait bien, où il y a eu le respect animal, etc.
Les fermes éducatives.
Tout à fait, exactement. Parce que les autres fermes sont a priori fermées. Oui. Tout à fait. Donc, ça résout l'ignorance que j'appelle sincère. Après, sur la question de la dissonance cognitive, ça peut créer une sorte de choc. Voilà. Et bon, il y a toute une palette de choses, mais c'est vrai que ça permet aussi de nous reconnecter avec la souffrance animale. C'est-à-dire que je pense que dans la rue, on assisterait à un chien qui se fait traiter de la même manière qu'une poule en élevage. Des chiens vendus dans des cages, dans des marchés, on le vivrait très mal. Et donc, en fait, on a été totalement coupé de ça. Donc, c'est ce que j'appelle l'empathie émotionnelle. C'est vraiment ce qu'on ressent d'un point de vue viscéral et ça, on ne le voit plus. Donc, c'est vrai que les associations ont joué un grand rôle là-dessus, par les lanceurs d'alerte, par leur campagne aussi de sensibilisation, d'information.
Par leur action politique maintenant, puisqu'on a beaucoup parlé lors des élections européennes, il y a un peu plus d'un an maintenant, du succès du Parti animaliste.
Tout à fait, c'est vrai que le Parti animaliste est aujourd'hui devenu un acteur important. Pas nécessairement en nombre de voix, enfin, c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire c'est 2% de la population aujourd'hui, des électeurs qui disent « je suis prêt à renoncer à tous les autres sujets politiques pour dire, pour signaler que celui-là n'est pas traité ». Donc c'est vraiment, ça reflète vraiment un ras-le-bol qui est très, très fort là-dessus. Et je pense que c'est le reflet en fait de nombreuses années où il y a eu un écart qui s'est creusé entre les représentants politiques et la population. Donc c'est vrai que le Parti animaliste a pour enjeu de créer une réserve de voix et de créer une pression sur les autres partis. La pression politique, elle peut se faire sur deux manières. Elle peut se faire soit en créant un nouveau parti, soit en faisant un peu d'une influence sur les partis qui existent. Le problème aujourd'hui, quand même, c'est qu'on a un fossé entre la représentation politique et les aspirations. Comme je rappelle dans le livre, 88% des Français sont contre les élevages intensifs. Et pourtant, rien ne change. Alors qu'on a des sujets où les consensus sont bien plus faibles et où les choses changent.
Et rien ne change aussi parce que les filières animales et agricoles sont assez puissantes et ont des relais d'influence auprès directement des parlementaires. Ça a été noté pas mal de fois. Qu'est-ce que l'État, du coup, peut faire pour faire bouger les choses? C'est une des parties à laquelle vous vous intéressez.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que sur l'État, je dis que c'est compliqué parce que l'État a un rôle important à jouer. Donc, je le discute, mais je dis qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt à jouer ce rôle. Mais alors, potentiellement, l'État a un rôle central sur, par exemple, l'information. Donc, quand j'avais commencé à écrire ce livre, c'est vrai que les recommandations du programme nutritionnel santé, en fait, qui est fait sur plusieurs années, étaient vraiment dépassées en termes de consommation de viande, voilà, informer sur l'impact sur la santé. Aujourd'hui, donc dans la dernière version, ils ont quand même maintenant, ils parlent de limiter la consommation de viande rouge, etc. Mais ils sont quand même au-dessus des recommandations un peu internationales. Donc là, il a un rôle à jouer parce que c'est vrai que je prends un exemple de certains sites internet, mais qui véhiculent des fausses informations, qui vous disent il faut manger des légumes presque une fois par jour. comment est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ça alors que on s'écrit partout, 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc là, il y a un vrai enjeu d'information, de diffusion de faits, de sciences, etc. Sur les autres outils dont dispose l'État, il y a aussi l'outil un peu traditionnel de la taxation. La taxation, pour être honnête, dans un monde post-gilet jaune, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Il faut en avoir conscience. Mais la taxation, elle est très prisée par les économistes parce qu'elle permet ce qu'on appelle de réintégrer les externalités. Donc quand ma consommation à moi crée des dommages à toute la société, donc environnement, santé, mais aussi à des animaux, il est important pour moi de payer ces coûts. Et ce qu'on pourrait très bien imaginer, c'est une taxation sur la viande ou en fonction du niveau de bien-être animal. Donc, je prends l'exemple, par exemple, des œufs. On pourrait taxer les œufs de poules élevées en cage, etc. Et si on est intéressé par une question, ce qui me paraît normal aussi, d'équité pour les catégories sociales les plus défavorisées, eh ben, prendre le fruit de cette taxation et le redistribuer en chèque alimentaire. Mais au moins, on aurait le vrai coût des prix qui intégrerait donc la question carbone, la question santé, la question animale.
Et du point de vue du secteur privé, alors des entreprises, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui existe peut-être même déjà ou qui est en voie d'exister ?
Alors, c'est vrai que les entreprises, elles ont un rôle important, surtout dans un monde, comme je disais, où l'État ne semble pas prêt à prendre son rôle là-dessus. Donc, il y a deux pistes que je discute. La première, c'est la question des labels. Donc, il y a une initiative que je discute, entre autres, qui était celle du groupe Casino, qui s'est associé avec plusieurs associations de défense des animaux pour créer un label pour les poulets, avec 5 niveaux de bien-être. Une limite très forte à ça, c'est que ça reste optionnel, un peu comme ce qu'on voit sur le Nutri-Score. Donc au final, seuls les groupes, je veux dire au niveau macro, hein, pas que Casino, mais seuls les groupes qui ont plutôt des pratiques vertueuses vont l'afficher. Ça peut aussi créer d'autres problèmes, comme je parlais de la licence morale, c'est-à-dire que vous achetez un poulet, vous voyez écrit « bien-être animal supérieur », vous vous dites « super, je fais quelque chose pour les animaux ». En fait, non, vous faites quelque chose qui est peut-être moins grave pour les animaux, mais ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose de bien. Donc là, il y a toute la psychologie du consommateur qui est là. Mais c'est quand même une très bonne piste parce que ça informe les gens. Et aujourd'hui, ils n'ont pas cette information. La deuxième piste, c'est bien sûr celle de l'innovation, où là, nous sommes, hélas, la France assez à la traîne. Mais donc, il y a tout ce qui est simili-carné, donc steak de légumineuses transformées. Je précise, tant que je suis là, qu'il ne faut quand même pas abuser de ces produits transformés, parce qu'on a plutôt des preuves aujourd'hui qui tendent à nous dire que ce n'est pas top pour la santé. Et donc, il y a la question aujourd'hui qui électrise un peu les foules, qui est la question de la viande de culture. Donc, le processus technologique, c'est prendre de l'ADN, ou du moins... de sang ou avec une biopsie, etc., des cellules tout à fait d'un animal. On met ces cellules dans ce qu'on appelle des bioréacteurs, dans lequel on leur donne des nutriments. Donc il y a beaucoup de questions sur ces nutriments qu'on leur donne. Ces cellules se multiplient et à partir de ça, ensuite, à partir d'échafauds, d'imprimantes 3D, on recrée des steaks. Alors aujourd'hui, on n'est pas trop sur la viande rouge parce que c'est encore très compliqué à recréer la viande rouge. Mais pour des produits plus simples, comme un peu le foie gras ou comme le poulet, on y arrive déjà. Donc il y a beaucoup de controverses là-dessus pour quels seront les impacts à long terme. Ce qu'il faut savoir, un des principaux déterminants pour l'empreinte écologique de ces produits-là, c'est l'énergie, comment l'énergie est produite. Et donc à terme, si on arrive vers une énergie qui est décarbonée, de production décarbonée, l'impact environnemental sera assez faible de ces produits, tandis que les animaux dans les élevages, entre guillemets, eux produiront toujours autant de méthane, etc. Ici, le thème, c'est bien sûr bien-être animal. Donc, en termes de bien-être animal, bien sûr, ça n'a rien à voir. Parce que si on peut éviter à 1 milliard d'animaux de se faire tuer tous les ans, en France, ce serait quand même un pas gigantesque.
On parlait de l'influence politique tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça peut être un sujet de discussion, un sujet de débat pour alors, ce qui sera la prochaine grande échéance politique en France, à savoir la présidentielle dans un an?
Alors, pour être un peu honnête là-dessus, en ce moment, il y a une proposition de loi de la République En Marche sur le sujet, qui a certes des bonnes avancées sur les animaux de compagnie, mais comme je disais, les animaux de compagnie, c'est quand même aujourd'hui les mieux traités du lot. Donc en fait, ce qu'essaie de faire la majorité, c'est de sortir le sujet du débat en disant « Regardez, on a fait une loi ».
On a déjà fait quelque chose.
Tout à fait. Ouais. Et donc j'étais auditionné la semaine dernière par les rapporteurs de la loi et je leur rappelais en introduction que donc on a 100 000 animaux de compagnie abandonnés tous les ans en France. On a 80% des poulets qui sont en élevage intensif. Donc si on fait le ratio, il y a un animal abandonné pour 6 000 poulets dans les élevages intensifs et aujourd'hui on se concentre sur l'animal abandonné. Donc c'est important pour l'animal abandonné, et je suis très content que ce soit là, mais c'est dommage pour tout ce qu'on nommait. Donc je pense que oui, il y aura des discussions là-dessus, à voir si le parti animaliste décide de se lancer dans la campagne ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il risque d'y avoir un ras-le-bol grandissant si le sujet n'est pas abordé. De vous à moi, de là à dire que ce sera le principal sujet de la présidentielle, je ne pense pas. Mais je pense que pour pas mal d'électeurs, ça compte. Et voilà, on a déjà 2% d'électorat qui votent pour parti animaliste. Ben, 2%, ça peut éventuellement faire une place au deuxième tour ou pas.
Et le livre de notre invité, je le redis, il s'appelle « Comment sauver les animaux, une économie de la condition animale ». Ça sort le 27 janvier chez PUF. Merci à Romain Espinoza pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016... Je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.